exposition de Nicolas Rubinstein, Quand j'aurai du vent dans mon crâne, mêle des ossements en art et espace.
Ingénieur, géologue et artiste vivant à Marseille, après avoir été adolescent à Manosque, Nicolas Rubinstein est passionné par les ossements. Il expose actuellement et jusqu'au 29 septembre 2015 au Centre d'art Le Cairn, situé au pied de la réserve géologique au parc Saint-Benoît à Digne. La transmission est un mot qui revient souvent chez l'artiste et se retrouve dans chacune de ses créations. Sa passion pour les ossements n'a rien de morbide. Pour Nicolas Rubinstein, les os sont plutôt support de vie et de mémoire. Rencontre avec cet artiste original, avec ce reportage d'Odile Frison, Nicolas Rubinstein.
J'ai fait une de mes premières expositions avec la même équipe qui était déjà en place, Nadine Gomez et Guy Martini qui étaient directeurs de la réserve. C'était presque à mes débuts et à l'époque j'essayais de mettre en évidence les squelettes cachés à l'intérieur des animaux.
Aujourd'hui vous présentez « Quand j'aurai du vent dans mon crâne ».
C'est un poème de Boris Vian qui m'a beaucoup touché. Quand j'avais 18-20 ans, je l'avais entendu chanter par Reggiani sur une musique de Gainsbourg et ça m'est resté. À l'époque il n'y avait pas le podcast donc... J'en ai juste gardé un souvenir ému pendant longtemps avant de la retrouver. C'est vrai que c'est quelque chose qui me poursuit depuis très longtemps. Je suis passionné d'os, je pourrais dire, depuis tout petit. Je collectais déjà les os enfants. Je mettais des lapins morts sur des fourmilières pour récupérer les squelettes. Enfin, de toute façon, j'ai toujours vécu avec des os. Il y a toujours eu des squelettes d'animaux, des crânes d'animaux dans ma chambre. Il y en a plein à ma maison aujourd'hui. Pour moi, l'os, de toute façon, n'a absolument aucun caractère morbide. Mais est porteur de mémoire, il me raconte une histoire. C'est en ce sens que j'ai privilégié pendant une grande partie de mon travail, pendant une vingtaine d'années, l'os, mais pris comme support de vie et de mémoire.
Vous avez un parcours un peu hors norme, on va dire, vous n'êtes pas passé par l'école des Beaux-Arts.
J'ai fait une formation d'ingénieur géologue. Enfin, c'est pas grâce à cette formation que j'ai rencontré Nadine, mais c'est vrai que ça nous a permis d'avoir des accointances. Ça a été aussi une des raisons pour lesquelles, il y a 20 ans, j'ai exposé à la réserve géologique. Pour ma maman, c'était très important que je devienne ingénieur. J'ai choisi la géologie parce que je suis naturaliste dans l'âme. J'ai grandi donc à Manosque, enfin pas à Manosque exactement, j'ai grandi dans la campagne avec mon premier voisin à 1 km. Donc de toute façon, je n'avais que ça à faire, observer la nature, lire des livres sur les animaux ou des livres sur les beaux-arts. J'ai dévoré la bibliothèque de mes parents. Ma formation, donc, s'est dirigée, je dirais presque naturellement, plutôt vers le côté naturaliste des sciences. D'abord, ça me passionnait, ça me passionne toujours. J'avais déjà des velléités de faire les beaux-arts quand j'étais plus jeune, mais bon, c'était pas possible, j'en ai même pas discuté familialement. Il fallait d'abord que je remplisse le contrat familial. C'est pour ça que je parle beaucoup de transmission, de mémoire, ça revient beaucoup dans mon travail. Mais une fois que ça a été fait, j'ai bossé 6 mois comme chef de forage et j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer à ce qui me semblait être le parcours qui m'était destiné. Je peux pas le dire mieux. Parce que j'ai vraiment eu la vision de ce parcours et à partir de ce moment-là, j'ai organisé ma vie en fonction de cette idée. J'ai été sculpteur en être artiste. Pour moi, c'est très important, ce sont deux choses différentes. J'ai dû d'abord apprendre à devenir un bon sculpteur. Bon, je modelais depuis tout petit. Le dessin et le modelage et les maquettes sont des activités que j'ai pratiquées énormément quand j'étais jeune, toujours. Mais il y avait des nouvelles techniques à apprendre et comme il fallait qu'en même temps je sois payé, j'avais deux possibilités, soit je faisais mon métier d'ingénieur et je faisais ça quand le week-end, le soir, ce qui me paraissait impossible avec la carrière d'artiste que j'envisageais, parce que déjà j'y passe 24 ans sur 24 et c'est pas assez, soit je trouvais un moyen de faire de la sculpture en étant payé. Et il existait un métier à l'époque qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui, parce que ça a été remplacé par les images de synthèse et les incrustations sur fond bleu ou vert. Mais c'était les effets spéciaux, accessoiriste effets spéciaux exactement, ça s'appelait ce métier, que j'ai pratiqué pendant 10 années. Et on fabriquait tous les objets qu'on voit dans les pubs de l'époque, les tubes dentifrice géants qui sortent de l'eau, jusqu'aux maquettes de voitures minuscules. Voilà. Et pendant 10 années, en faisant ce métier, j'ai appris toutes les échelles et tous les matériaux. Un apprentissage sur le tas, mais qui me sert énormément aujourd'hui. Puisque je suis pas l'artiste d'un matériau. D'ailleurs, je réfléchis assez peu au matériau. Je prends le matériau qui se prête le mieux aux conditions financières, pratiques, plastiques, pour réaliser l'image que je veux donner. Voilà. Ce qui m'importe, c'est l'image. Et de plus en plus, c'est de créer des environnements, des installations dans lesquelles le spectateur puisse complètement s'immerger. Cette formation que j'ai eue dans le cinéma et dans la publicité me sert énormément aujourd'hui pour ça, puisque j'ai appris finalement à raisonner à toutes les échelles. Et je me sers de cet apprentissage, mais autant que de l'apprentissage d'ingénieur d'ailleurs, hein, puisque il y a certaines pièces dans l'exposition, comme la Dimension Map de Buckminster Fuller, qui sont des souvenirs que j'ai retravaillés depuis, mais des choses que j'ai appris quand j'étais élève ingénieur, toutes les projections cartographiques, toutes ces choses qui m'ont passionné. La cartographie, de toute façon, est quelque chose qui me passionne, ne serait-ce que parce que ça permet d'avoir une vision globale du monde d'un seul coup d'œil, ce qui n'est même pas possible sur un globe, quoi, parce qu'il faut le tourner ou faire le tour, alors qu'une carte est le seul moyen d'avoir la vision complète d'un objet ou d'une zone de terrain.
D'autres projets actuellement ?
Oui, une grosse exposition prévue en octobre au château de Cannes-sur-Mer, au château de Grimaldi, où ils m'ont offert toutes les salles du château, 3 étages, ça va être énorme. Je remettrai d'ailleurs toute l'exposition de Digne scénographiée d'une manière un peu différente, puisque l'enchaînement des salles, les salles sont plus petites, j'ai pas comme ici un open space tout peint en blanc. Là-bas, je vais jouer un peu avec l'architecture. Le lieu où j'expose est aussi très important pour moi, puisqu'il conditionne forcément l'installation. J'aime beaucoup jouer avec le lieu dans lequel je suis invité. Et ensuite, j'ai une autre grosse exposition prévue en 2016 à la Villa Tamaris de Seine-sur-Mer, au centre d'art de la Villa Tamaris, où je présenterai là un autre travail qui parle encore de transmission, mais au sens le plus basique du terme. Il y en a un petit exemple, bien qu'il n'y a qu'une seule roue, mais qui sont des engrenages de roues dentées, où des roues dentées sont en fait des vertèbres qui s'engrènent les unes dans les autres et qui recréent un mouvement. Donc, c'est comment traduire la transmission familiale ou intellectuelle par la transmission mécanique. Et où là, je présenterai des très grosses machines, on va dire du Tinguely en os, on pourrait presque dire.